l'heure. Le citoyen, l'élu, la bibliothèque. C'est donc un clin d'œil, hein, vous le savez bien, à Éric Rohmer, à son arbre, à son maire et à sa médiathèque. Et il ne pouvait en être autrement dans la ville des Frères Lumière. Mais au-delà, je crois qu'il était important que la première session de ce congrès qui veut traiter, qui veut parler de la bibliothèque Fabrique de citoyenneté, il nous semblait au comité de pilotage important de commencer par une parole d'élu. Une parole d'élu, parce que, évidemment, c'est une parole qui est décisive et qui peut-être n'est pas assez portée par nos congrès. C'est pourquoi vous le devinez, avec Anne, nous félicitons d'avoir la chance pour cette session d'avoir à mes côtés trois élus, hein, qui vont porter cette parole d'élu et donc cette parole citoyenne sur la bibliothèque. C'est l'occasion pour nous, à travers les questions, hein, qu'on posera à la fin des interventions, de partager des cultures, hein, qui souvent se rencontrent, mais pas toujours. Et je crois que saisir l'occasion du congrès de l'ABF pour que ces cultures d'élus et ces cultures de techniciens s'échangent, se partagent, c'est une très belle occasion. Donc, pour aborder cette thématique, trois élus à mes côtés. Je commencerai par présenter très brièvement Arnaud Bazin, qui est donc le président du Conseil général du Val d'Oise. Arnaud Bazin est vétérinaire de profession et il a été maire de Persan. Persan, c'est une ville ouvrière du nord du Val d'Oise. C'est, monsieur le président me le disait il y a un instant, une des quatre villes les plus pauvres en ce qui concerne le revenu moyen. 40% en zone urbaine sensible, 50% de logements sociaux, des projets dans le cadre de l'ANRU, enfin un environnement qui vous a marqué, monsieur le président, et je devrais dire aussi monsieur le maire, puisque c'est cette expérience de maire qui vous a aussi marqué et qui a fait que vous avez pu vous forger dans cette expérience de Persan entre 1995 donc, et 2011, une conviction forte sur le rôle d'une bibliothèque publique. Conseiller général de Beaumont-sur-Oise, puis vice-président du Conseil général aux affaires sociales, vous êtes désigné président du Conseil général du Val d'Oise aux élections cantonales de 2011 et vous devez, cumul des mandats oblige, enfin interdiction des cumuls de mandats oblige, vous devez quitter vos fonctions de maire de Persan. Jean-Luc Maillot, vous êtes le président de l'Université de Lyon 2 depuis avril 2012. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine, vous avez dirigé le laboratoire d'études rurales, et ce depuis 2003, et vous étiez responsable de la section d'histoire contemporaine de l'Université Lumière. Vous avez commencé votre carrière comme professeur d'histoire-géographie de collège à Aubervilliers. Vous êtes professeur des universités en 1995. Vous prenez alors vos fonctions à l'Université de Lyon 2, Lumière, spécialiste d'histoire contemporaine. Vous présidez l'Association des ruralistes français et vous êtes rédacteur en chef de la revue Ruralia. Vous êtes également membre du comité d'histoire de l'INRA. Par ailleurs, vous avez fondé, co-dirigé et dirigé plusieurs sociétés savantes. C'est ainsi que vous êtes à l'origine de la création du portail de revue en sciences humaines et sociales, revue.org, à laquelle vous avez participé de 1999 à 2005. Georges Képénékian, vous êtes adjoint à la culture, au patrimoine, aux grands événements et aux droits des citoyens à la mairie de Lyon. Vous avez été directeur de campagne de Gérard Collomb aux élections municipales de 2008, élu conseiller du 3e arrondissement et tout d'abord adjoint au maire de Lyon, délégué à la culture et au patrimoine. En 2009, et il faut le souligner bien évidemment, votre délégation s'élargit aux droits des citoyens et en mai 2012, aux grands événements. Donc une délégation importante que vous menez à bien tout en assurant vos fonctions, votre métier de médecin chirurgien et de directeur de la stratégie et du développement du centre hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc à Lyon. Vous avez été vice-président de la culture et à la recherche au sein de la fondation Bulukian, qui est engagé à la fois dans le soutien à la recherche médicale et la création artistique contemporaine. Un mariage sur lequel vous voudrez peut-être nous dire quelques mots tout à l'heure. Dans le cadre de vos différentes fonctions, vous avez soutenu de nombreux projets pour la santé, pour la cause arménienne aussi, pour la coopération internationale et naturellement la culture. Alors, ce qui est proposé, c'est que je vous pose à tous trois une série de trois questions. Chacun y répond à tour de rôle et puis on a un temps d'échange à la fin de chaque séance avec la salle. Nous comptons vraiment sur vos questions pour animer ce débat. C'est un dialogue hein, qui est souhaité au cours de cette heure et demie que nous allons passer ensemble. Alors, première question pour décortiquer un petit peu cette approche élue de la problématique la biotech fabrique du citoyen. Première approche, Arnaud Bazin va ouvrir ce bal, entre guillemets. Monsieur le Président, la lecture publique, quel enjeu dans la politique culturelle du Conseil général? Et vous l'avez deviné, chers collègues, la même question sera posée dans le cadre de la politique culturelle de l'université et de la ville de Lyon. Hein ? Cet ordre-là sera inversé pour la deuxième question et puis on aura un troisième ordre encore pour la dernière. Mais, Monsieur le Président, du Conseil général du Val-d'Oise, c'est à vous.
Je vais donc volontiers me livrer à l'exercice, mais avant de donner les éléments essentiels du panorama val-d'oisien, je voudrais vous dire quand même que quand je me suis installé dans ma commune de Persan en 1985, j'y ai donc créé une clientèle vétérinaire urbaine. Et quand on crée une clientèle, évidemment, la clientèle ne se bouscule pas au début et on a du temps libre. Et comme j'ai toujours été un lecteur passionné, le premier service public auquel je me suis adressé dans ma commune, la vitrine de ma commune, pour moi, au début, c'était la bibliothèque, tout simplement, parce que j'allais régulièrement emprunter et rendre des ouvrages qui m'aidaient à trouver le temps moins difficile entre les quelques clients du début. Mais ça, c'est une histoire déjà ancienne. Dans le Val-d'Oise, les bibliothèques constituent tout simplement le premier réseau culturel. Nous avons 127 bibliothèques publiques pour 1 200 000 habitants. Le Val-d'Oise, c'est aussi un territoire un peu hétérogène. C'est une France en réduction, parce que nous avons des zones urbaines très agglomérées et pour certaines très très proches de la première couronne de Paris d'ailleurs. Mais nous avons aussi un vaste territoire rural qui représente 70% de notre surface départementale. Et dans cette zone rurale, les bibliothèques, c'est le réseau de services le plus répandu, tout simplement devant le commerce de bouche, les stations-service et la poste. C'est aussi le réseau public qui attire le plus grand nombre de nos concitoyens. Nous estimons que les bibliothèques publiques du Val-d'Oise enregistrent 2 millions d'entrées chaque année, autant que le parc Astérix, pour changer un peu de référence culturelle. Alors, bien sûr, nous exerçons notre compétence obligatoire dans ce domaine, mais nous avons la conviction que nous devons adapter cette compétence à l'évolution de l'organisation territoriale de notre pays, ainsi qu'à nos moyens, parce qu'en ce moment, vous savez que la question des moyens, et en particulier dans les départements qui sont en première ligne face à la crise, évidemment, est posée en permanence. Mais je m'inscris là aussi dans une tradition de tous les présidents qui m'ont précédé dans la fonction. Notre politique de lecture publique s'adresse à toutes les communes, quelle que soit leur taille, et bien sûr dans un principe de subsidiarité, c'est-à-dire que nous les aidons à faire, mais nous ne faisons pas, bien sûr, à leur place. Nous veillons donc au maillage du territoire du Val-d'Oise en bibliothèque et nous avions mené une étude en 2003 qui nous avait indiqué que 80% des personnes sortant d'une bibliothèque ont mis moins de 15 minutes pour s'y rendre, et quel que soit le mode de déplacement. Donc cet aspect chrono nous donne une indication de la mesure de proximité et un objectif à atteindre. C'est pourquoi nous proposons des subventions et des conseils, mais encore une fois, nous ne nous substituons pas aux communes et à leurs groupements. C'est bien sûr à elles directement ou par le biais associatif de mettre en place cet espace de service public. Alors nous intervenons classiquement en subventions d'investissement et de fonctionnement pour toutes les bibliothèques. Et nous avons également notre bibliothèque départementale qui passe des conventions avec les communes et intercommunalités. Les services, l'expertise que nous pouvons apporter, c'est bien sûr l'accompagnement de projets, les prêts d'ouvrages, la formation, les conseils, tout cela est classique. Ce qu'il est certainement un peu moins et qui nous a valu le prix d'innovation Livre Hebdo en 2012, c'est notre réseau documentaire Révodoc que nous coordonnons et soutenons. Il rassemble une soixantaine de bibliothèques municipales et intercommunales, mais aussi des bibliothèques spécialisées et d'enseignement supérieur. D'ailleurs, je crois que le projet avait démarré avec l'enseignement supérieur et l'université tout particulièrement. Le principe est simple, les bibliothèques mettent leurs fonds à la disposition des usagers de toutes les bibliothèques du réseau, et d'où la formule que nous avons choisie avec Révodoc, votre bibliothèque est aussi grande que le Val d'Oise. Toute personne inscrite dans une bibliothèque du réseau peut réserver en ligne sur un catalogue collectif. Évidemment, le numérique est capital pour cela et l'ouvrage choisi est acheminé dans sa bibliothèque. Nous finançons la logistique informatique de ce réseau et une partie de la logistique d'acheminement qui tend à évoluer vers une interconnexion entre des navettes départementales et des navettes intercommunales. Depuis l'an dernier, ce dispositif est complété par la réserve départementale de prêts. Nous incitons les bibliothèques publiques à céder les ouvrages qu'elles retirent des rayonnages accessibles au public, ce qui les encourage à renouveler et actualiser leur offre. Et nous nous engageons à conserver au moins un exemplaire de chaque titre et qui demeure prêtable, disponible. Voilà quelques éléments de nos actions. La méthode, c'est faire ce qu'il y a de plus efficace pour une échelle départementale sur l'ensemble de notre territoire, principe de subsidiarité encore. Et pour les enjeux, il y en a au moins deux. Le premier enjeu est un enjeu de méthode. Inciter les collectivités à mutualiser pour être plus efficaces. Nous avons beaucoup accompagné les mises en réseau intercommunaux et nous poursuivons cette ligne en organisant par exemple un colloque sur cette question le 13 juin prochain, destiné aux élus, aux cadres et au personnel des bibliothèques. Et le principal enjeu, c'est de changer les bibliothèques, de les aider à s'ouvrir à la diversité des publics, à l'évolution de leurs besoins et de leurs pratiques, à considérer la bibliothèque comme un véritable espace public, mais je pense qu'on en parlera largement tout à l'heure, ouvert à l'ensemble des populations pour répondre à des besoins que nous constatons comme extrêmement divers. Cela est accompagné et consolidé, bien sûr, par les délibérations du Conseil général, et les dernières remontent à février et mai de l'année dernière, qui ont permis de reformuler tous nos objectifs en cette matière d'une façon affirmée et lisible pour nos partenaires.
Très bien, merci beaucoup pour cette première approche synthétique des enjeux de la lecture publique dans le Val d'Oise. Je passe la parole à l'université cette fois-ci, après le conseil général. Jean-Luc Maillot, quelle place pour le livre, les bibliothèques dans la politique culturelle de Lyon 2?
Merci Gilles Eboli. D'abord, je suis à la tête d'une université sur les quatre universités du site Lyon-Saint-Étienne. Je suis à la tête d'un établissement de lettres, langues, arts, sciences humaines, sciences sociales. Et 28 000 étudiants, c'est à peu près 25% donc des effectifs étudiants du site. Alors, politique culturelle, oui, il y a une politique culturelle de l'université, à la fois classique, traditionnelle, et puis avec des tentatives d'ouverture, des initiatives, dans la mesure où l'université Lyon 2, Lumière Lyon 2, est une université principalement concentrée sur deux sites, un site historique sur les quais du Rhône, donc en centre-ville, prestigieux, avec un très bel amphithéâtre qu'on nous envie, et puis une université, j'allais dire hors les murs, quand elle est pensée au début des années 70, qui est une université qui a une caractéristique, elles ne sont pas très nombreuses en France, c'est qu'il n'y a pas de résidence universitaire. Et j'aurais fait quasiment toute ma carrière, parce que j'ai commencé comme maître de conférence à Villetaneuse, et 10 ans après, je suis devenu professeur ici, sur le même type de campus, architecte qui qui avaient quand même tendance à se copier les uns les autres, même labyrinthe de bâtiments d'accès aux salles et autres. Mais cela veut dire quand même deux sites, bien sûr, lettres, langues, arts, sciences humaines, sciences sociales, politique culturelle, qui pendant un temps a beaucoup fonctionné sur une ouverture à la fois sur les étudiants, une dynamique avec les collègues, les enseignants, et bien sûr en lien, si possible, avec la vie culturelle, au moins locale. Bon, quand j'étais étudiant, mais je ne suis pas étudiant lyonnais, mais le TNP faisait rêver, la Revue Positive faisait rêver, enfin toute la richesse lyonnaise en termes culturels faisait véritablement beaucoup d'envieux. Aujourd'hui, cela fait toujours rêver, mais il me semble qu'on est en train de réorienter les politiques culturelles, de, bien sûr toujours en interne, avec tous les problèmes que cela pose, qui sont des problèmes de budget, des problèmes de place, des problèmes d'emploi du temps. Les missions de l'université se resserrent de plus en plus sur le fondamental, qui est la formation au sens strict du terme, qui est la professionnalisation et qui est la recherche, dans l'ordre que vous voulez, qu'importe. Mais ce qui se joue, c'est l'ouverture sur la cité, le concept était, et le slogan était fort. Moi, avec mon campus de Porte des Alpes, 16 000 étudiants, c'est aussi une ouverture sur les cités. L'université Lyon 2, pour situer à peu près ses 28 000 étudiants, je voudrais quand même préciser que ce sont un peu plus de 30% de boursiers, mais c'est aussi 40% d'étudiants salariés, c'est-à-dire qui ont un emploi significatif, hein, ce n'est pas du babysitting une fois par mois. Voilà, cette population. Et pour terminer de présenter cet établissement, c'est un établissement qui cependant dispose, a réussi à faire émerger 34 laboratoires de recherche labellisés, c'est-à-dire des reconnaissances d'un niveau nettement international dans tous les domaines qui sont ceux de notre compétence. Que l'Université Lyon 2, elle n'est pas enfermée sur Lyon 2, elle est en partenariat avec les autres établissements. Nous reconstruisons aujourd'hui, dans l'attente de la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche, un établissement, donc une communauté universitaire d'établissements, qui, à la différence du précédent, du PRESS, ne sera pas un établissement, une voie, mais sera sous d'autres modes de gouvernance et sera plutôt sur le modèle confédéral que sur le modèle fusionnel. Cela étant dit, donc, politique culturelle que l'on essaie de développer, bien évidemment, et pour laquelle, politique, le livre a bien évidemment une très grande importance, avec cependant un certain nombre d'éléments qui ne vont pas de soi. Ça ne va pas de soi aujourd'hui à l'université que la culture passe par le livre. Je m'explique. La culture passe par c'est l'outil de l'apprentissage, c'est l'outil de la formation, c'est un outil important, bien sûr, pour la recherche. Est-ce que on dépasse ce domaine de la formation et de la recherche pour autre chose? C'est une question que je me pose. Je ne suis pas toujours en voiture de fonction, je vais sur mes campus par le tram, comme les étudiants, et je me plais à regarder quand même ce qu'ils lisent, enfin ce qu'ils traînent avec eux comme ouvrage. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il y a un tampon ou une étiquette d'une bibliothèque, pas forcément les nôtres, et ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'est-ce qu'ils lisent qui pourrait être en rapport avec l'enseignement ou autre. Donc ce n'est qu'un poste d'observation quasiment de sociologie participante, mais je trouve que c'est assez éclairant. C'est-à-dire quelle est la place du livre à soi, du livre de bibliothèque, et qu'est-ce que l'on peut faire avec cela. Le deuxième point, c'est quoi le livre aujourd'hui dans l'établissement comme le mien, dans la mesure où il y a un peu plus de 10 ans, un incendie criminel a fait partir en fumée la bibliothèque historique universitaire. Plus de 300 000 volumes ont disparu, autant par les flammes que par les tentatives d'extinction de l'incendie. Donc nous nous sommes retrouvés complètement démunis, mais vraiment. C'est-à-dire, l'émotion, j'en ai encore quelques souvenirs, mais voilà, ça disparaissait, c'était fini, et à peu près le sentiment que nous n'arriverions, jamais on pourrait retrouver cette bibliothèque, et nous ne l'avons jamais retrouvée. Nous ne l'avons jamais retrouvée pour plein de raisons. L'une, c'est sans doute ce sentiment qui a fait que l'on est parti dans l'idée de la bibliothèque numérique. Donc, là-dessus, nous avons pris beaucoup d'avance à l'époque. Et puis, jamais retrouvé, et ça nous a permis de redécouvrir les richesses, notamment celles de la bibliothèque municipale, notamment celles du fonds ancien. Je suis historien, donc je sais le paquet d'autorisations que je signais chaque année quand j'étais enseignant, parce que pour accéder au fonds ancien, il fallait bien sûr l'autorisation d'un patron pour dire que oui, tel étudiant était bien en apprentissage de recherche. Mais c'est dire à quel point il y a eu de fait une synergie à ce moment-là, mais ça veut dire aussi à quel point la question du livre se pose. C'est-à-dire l'accès à l'écrit, est-ce que c'est la question du livre? Enfin, j'enfonce des portes ouvertes, vous me pardonnerez, mais on est vraiment dans cette question. Alors, politique culturelle, oui, indirectement. Politique de l'écrit, de l'accès, assurément, indispensable. J'y reviendrai tout à l'heure à propos des autres questions. Mais tout de suite de préciser que, me semble-t-il, nous sommes d'abord dans un constat qui est l'usage du livre pour quelle culture et la démultiplication des formes de pratiques culturelles pose question. Et là, je crois que je vais attendre avec beaucoup d'intérêt l'intervention de Georges Kepenekian, parce que là-dessus, on a, je crois, beaucoup. Et puis, ben, Gilles Eboli, mais ça fait longtemps qu'on en parle. Je vous remercie.
Merci à vous, Georges. Le troisième temps de cette première approche.
Oui, juste en complément de ce qui a déjà été dit, puis de l'endroit d'où je parle, c'est-à-dire de cette mission que je porte, au fond, de la politique culturelle de la ville, de son patrimoine, de la politique de l'égalité, du droit des citoyens et, bien sûr, des grands événements. Donc, cela s'est fait, vous le rappeliez, Gilles, par touches successives qui correspondent au départ d'autres adjoints et une concentration sur ma personne. Pas forcément simple au quotidien, d'ailleurs, faut bien le reconnaître, mais ça fait sens, parce que le livre, il est un peu, aujourd'hui, et notre politique dans cette ville est parfaitement au carrefour de ces quatre missions. Et je crois qu'après la grande période où nous avons, dans notre pays, construit des bibliothèques, toutes les villes, les départements, les régions sont à leur manière impliquées dans les politiques du livre, il y a eu un vrai impulse parce que cela correspond à l'idée qu'on a eue dans notre pays, mais bien sûr dans tous les autres pays, que le livre et que la transmission par le livre était un élément important. Parce que l'invention de l'écriture a probablement, dans l'histoire de l'humanité, transformé un peu le rapport des hommes entre eux, mais surtout à leur passé. À partir de ce moment-là, on a pu, grâce à l'écriture, revisiter son propre passé et garder des traces de ce qui s'est fait. Et quand vous parliez des difficultés d'accès aux silos, aux documents anciens, je ne sais pas, mais en tout cas hier, nous étions dans le silo avec Jacques Roubaud qui remettait une série de photos de son épouse à la BM, et nous avons consulté avec une rare émotion un certain nombre des documents précieux de notre bibliothèque, et c'était tout à fait important. Et ça pose d'ailleurs cette question: que seront... comment se transmettra la mémoire demain. Et quand on est passé au fond de l'écriture, qu'on l'a inventée d'abord en l'aggravant, puis au rouleau, puis l'imprimerie qui a démultiplié, eh bien je crois que ceci participe à la transmission. On l'évoquait, et moi j'ai bien entendu ce matin Michel Vievorka pour dire que tout cela relève de la formation, puisqu'aujourd'hui, vous avez pris comme thème la fabrique du citoyen. Je crois que ces questions ne peuvent pas se dissocier les unes des autres. Et en cela, la bibliothèque, comme les actions, les politiques culturelles de la ville, que sont toutes les autres pratiques musicales, théâtrales, muséales et toute autre forme contemporaine ou plus ancienne participe au fond à créer ce qui est le cœur de la construction personnelle. Et que aujourd'hui, vous savez bien que des équipes, des chercheurs réfléchissent plutôt qu'à penser seulement aux droits de l'homme, de penser le droit à la culture, considérant que je suis reconnu homme parce que je peux construire ma propre identité et que la culture est un de ces éléments fondateurs. Donc, je crois qu'à Lyon, dans une formidable continuité politique, aucun nouveau maire, aucune nouvelle équipe n'a déconstruit ce que la précédente avait organisé. Et je dirais que depuis 40 ans, avec l'ouverture de la bibliothèque de la Part-Dieu, qui est vraiment un concept nouveau, révolutionnaire d'une certaine manière au moment où il s'est fait, eh bien les choses se sont continuées, mais on les a peut-être un peu amplifiées depuis 12 ans avec un formidable développement, je ne vais pas y revenir, d'un réseau de bibliothèques qui quadrillent la ville et qui sont devenus pas seulement des lieux d'échange de prêt de livres, mais des lieux de médiathèques très souvent, mais des lieux où se situent conférences, expositions, rencontres, qui sont ces lieux où, grâce à la gratuité, grâce à l'accès libre, permettent à tous les publics de pouvoir se rencontrer et échanger. Au-delà de ça, les bibliothèques, la lecture publique aujourd'hui, dans les 20% un peu plus de budget dédié à la culture dans notre ville, eh bien, le premier poste budgétaire est bien sûr représenté par la lecture publique. Et ma foi, c'est une donnée qui traduit le volontarisme de l'équipe municipale pour le faire, et en particulier de Gérard Collomb, qui est très investi dans ce souci de structurer cet accueil, cette mise à disposition, cette manière d'être au service du public aux quatre coins de notre ville. Parallèlement, les bibliothèques ne sont pas coupées du reste des institutions. La charte de coopération culturelle, qui est une charte sur laquelle s'engagent toutes les institutions de notre ville, est une manière de contractualiser avec la ville pour que sur l'ensemble des programmes qui sont développés, là encore, musée, opéra, théâtre, les institutions s'engagent à mener des actions auprès des publics empêchés, auprès des quartiers plus difficiles, auprès des, en particulier avec l'ABM, un programme avec les prisons, bref, ce qui se fait dans beaucoup d'endroits, mais à Lyon, cela est le fruit d'un engagement, d'une convention signée entre la ville et ses institutions. Nous avons par là la volonté de mailler. Aujourd'hui, on n'est pas en situation de catégoriser les gens, ceux qui iraient à la bibliothèque, ceux qui vont à la bibliothèque vont aussi écouter de la musique ailleurs, vont aussi voir du théâtre. Et nous avons la préoccupation de faire qu'au sein de nos bibliothèques, les autres pratiques, les autres lieux culturels puissent se mailler, participer, coproduire des actions qui pour nous sont essentielles. Et en cela, la politique culturelle, la politique patrimoniale, celle du souci d'accessibilité de tous à la connaissance, et représente vraiment le cœur de notre politique. Et voilà pour commencer.
Merci Georges, merci à tous les trois d'être restés dans des délais qui nous permettent ce premier échange avec la salle. Donc il y a deux micros qui peuvent circuler. Alors je ne vois pas très bien, mais voilà. Nous passons à vos questions. À la suite de ce premier thème, l'enjeu de la biothèque dans votre politique culturelle. Chaque intervenant a été si limpide que aucune question ne... Écoutez, moi, je vais peut-être en avoir une ou deux. Monsieur le Président, vous nous avez dit, pour le Val-d'Oise, l'enjeu, c'est aider les bibliothèques à s'ouvrir à tous. Est-ce que vous pouvez aller un petit peu plus loin par rapport à ce programme? Comment un élu peut-il donc avoir cette ambition d'aider les bibliothèques à s'ouvrir à tous? Quelle est l'intention derrière, ou voir les moyens, les politiques qui sont à la clé de cet objectif?
J'aurais pu d'ailleurs en dire un mot dans l'idée de la bibliothèque idéale sur laquelle on va être invité à s'exprimer après, mais je peux déjà dire que une bibliothèque pour moi, et c'est le fruit d'une expérience municipale, mais dont j'ai retrouvé les principes dans l'action que développait déjà le département, c'est que c'est un lieu avant tout partenarial. Notre objectif à nous élus, c'est que nos structures soient les plus fréquentées possibles par l'ensemble des publics dont nous avons la responsabilité. Et pour ça, pour parfois les amener, les aider à pousser la porte. Alors il y a des publics qui poussent la porte très spontanément, ceux-là doivent trouver un bon service. Mais pour ceux qui ne viendraient pas spontanément, il faut qu'on trouve des maillages. Et c'est ce travail que nous essayons de faire. En finançant d'ailleurs, nous, département, pour les communes, des actions d'animation qui sont très fréquentées par le public scolaire, qui est par définition un public captif, ça il faut bien le dire. Mais pour que les jeunes adultes et les adultes viennent, ils y viendront d'autant plus facilement qu'on les aura un peu amenés à y aller et à découvrir tout l'intérêt de la section jeunesse avec des personnels formés qui les accompagnent dans la découverte du livre avec leurs instituteurs et professeurs des écoles. Nous avons la même action d'ailleurs plus précocement dans la commune dont j'étais le maire avec les assistantes maternelles dans le cadre donc de partenariat avec le relais assistante maternelle. Tout ça sont des actions que le département peut contribuer à financer à travers des dispositifs d'animation. Donc ces partenariats, j'en ai cité deux, il y en a bien d'autres, que nous essayons de valoriser pour que ce soit déjà une habitude de fréquentation et puis un lieu de rencontre également.
Merci. Mais je vais pousser ma question parce qu'il n'y avait pas tellement qui s'est levé dans la salle, ça va sûrement en venir. Comment, c'est dans cet objectif de partage de culture, comment en êtes-vous arrivé à élaborer cette proposition? Est-ce que c'était dans vos réflexions, dans votre programme électoral, que de dire, bon, voilà, les bibliothèques, il faut qu'elles s'ouvrent à tous, ou bien c'est dans des échanges, par exemple avec le directeur de votre BDP? Est-ce que c'est quelque chose qui est facilement partageable avec les autres élus, ce positionnement de la bibliothèque relativement central dans votre politique culturelle et cette volonté d'ouverture à tous? Est-ce que c'est quelque chose qui va de soi, ou est-ce que c'est une conviction que vous devez défendre? Comment les choses se passent?
Je crois que c'est surtout déjà, parce que moi je suis à défaut d'être un jeune, un récent président de conseil général, c'est quelque chose qui s'inscrit dans l'histoire de notre département de toute façon. Et je pense que ces partenariats-là, c'est cette volonté d'avoir la lecture publique comme une pierre angulaire de nos ambitions culturelles, elle remonte à des traditions d'échanges déjà fortement ancrées dans le département, qui se sont concrétisées par des choix départementaux, des investissements importants et des partenariats répétés avec les communes et intercommunalités. Donc je n'ai pas l'historique très ancien, mais je suis conscient d'être là, je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, dans une continuité et d'avoir la responsabilité de faire prospérer ce travail qui est déjà en effet une tradition. Alors évidemment, quand on baigne dans cet environnement-là, on a tendance à trouver que c'est naturel, que c'est ainsi que ça devrait toujours être. Bon, évidemment, ça n'est pas le cas et chaque collectivité peut avoir des approches différentes, bien évidemment. Mais dans notre département, c'est dans cet historique-là que nous nous inscrivons.
D'accord. Un peu la même question à Georges. Georges, vous me disiez le droit à la culture. Est-ce que c'est une notion qu'il est facile de partager avec les élus de la ville, ou bien c'est quelque chose qu'il faut défendre, sur lequel il faut s'arc-bouter, ou c'est quelque chose d'évident?
Bon, je crois que c'est un concept qui est en train de s'installer dans nos paysages au gré des mouvements migratoires, là encore, qu'évoquait ce matin Michel Vievorka. Je crois que nous avons besoin de repenser d'une manière beaucoup plus globale l'ensemble des dispositifs. Je crois qu'aujourd'hui, On a un peu, comme parfois on aime le faire en France, cloisonner les disciplines, cloisonner les pratiques artistiques, et puis il y a les professionnels, puis il y a les pratiques amateurs, tout ça est très séparé. Et en gros, on flèche un peu nos budgets en fonction de ces disciplines. Et je crois, là comme dans beaucoup d'autres pratiques sociétales, que la transversalité devient la clé. On est souvent le même à faire plusieurs activités. Et il est bon que, au sein, le fil rouge de ces activités soit au fond en quoi je me constitue et je me reconnais, je me construis, je trouvais dans le petit traité de l'éloge des frontières que Régis Debray avait rédigé il y a maintenant 2 ans, je ne sais plus, c'était pour montrer qu'il faut arrêter de vouloir supprimer les frontières. Plus on a dit médecins sans frontières, vétérinaires sans frontières, pharmaciens sans frontières, architectes sans frontières, et il y a plus de frontières que jamais dans notre monde. Donc arrêtons de penser qu'on va tomber les frontières, et on peut le décliner au niveau individuel. Je crois que la frontière est un bel exemple, c'est la peau. La peau est une frontière entre mon moi et mon extérieur, pourvu que cette frontière soit perméable et respirante. Le drame des frontières, c'est quand elles sont fermées et qu'elles n'ont pas cette porosité naturelle et qu'elles ne permettent pas l'échange. Alors, moi, je suis, et nous sommes de plus en plus convaincus que la politique culturelle, la politique de transmission des savoirs, c'est, au fond, ça procède toujours de la même, du même travail de transmission et de construction. Et de ce fait, nous avons besoin, là encore, de plus en plus, de laisser les identités des maisons. Les bibliothèques ne sont pas des théâtres, c'est pas ça qu'on veut faire. On veut pas transformer les bibliothèques en espace de concert ou de présentation de je ne sais quelle pratique artistique, mais en même temps, on peut les retrouver quand elles font sens avec le travail de transmission du livre, des collections et d'un lieu de fréquentation. Voilà, je crois que il y a là des outils de proximité, d'hyper-proximité, dirait Patrick Bazin quand il aimait lancer comme ça des mots pour qu'on les raccroche. Je crois qu'il y a une formidable opportunité pour faire, à côté du métier, le corps du métier de la bibliothèque, de trouver ces espaces, encore une fois, de respiration dans l'ensemble du système.
Merci.
Reste à faire.
Alors, bon, s'il n'y a pas des questions dans la salle, je vous propose d'enchaîner sur la deuxième thématique, qui est celle de la bibliothèque idéale. Pourquoi ce temps-là ? Ah, mais bravo, je ne voyais pas. Une question au milieu de la salle. Alors, si vous pouvez vous présenter et posez votre question.
D'accord. Bonjour, Laurence Guédin de l'ABF Languedoc-Roussillon et de la DLL du Gard. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que là, on est face à des élus qui sont convaincus, donc ça fait plaisir. Mais c'est vrai qu'en tant que technicien et en tant que professionnel, quels arguments et qu'est-ce qu'on peut un peu faire valoir auprès d'élus qui n'ont pas du tout conscience de ce que vous venez d'évoquer et qui n'ont pas du tout, qui ne se lancent pas du tout dans une politique culturelle ? Qu'est-ce qui peut parler à des élus ?
Ah, qui veut répondre à cette question ? Je vois le président Bazin qui a un début de réponse, peut-être.
On peut anticiper peut-être sur la partie 2, après tout, sur la bibliothèque idéale, parce que vous allez voir, je vais faire un lien.
Je crois que c'était un peu ce qui était prévu, donc merci de votre question qui nous permet de passer au deuxième mouvement.
Il y avait une question là quand même encore.
Micro, si vous pouvez vous présenter.
Bonjour, je suis Sandrine Figuier. Alors, je suis conseillère municipale à Martigues. Voilà, donc je suis très contente d'être à ce colloque. Je trouve que c'est d'un haut niveau. La seule chose que je regrette, c'est voilà d'avoir des salles féminines et puis de me retrouver classiquement devant une tribune d'hommes blancs masculins et d'une moyenne d'âge au-dessus de 50 ans. Et c'est la triste réalité de notre pays. Et voilà, c'est un petit peu dommage.
De plus de 50 ans.
Non, d'au moins 50 ans à vue d'œil, voilà.
Calomnie.
Voilà, mais c'est presque systématique ce genre de situation dans la culture, malheureusement, mais bon, voilà.
Alors, madame...
alors voilà, donc je suis conseillère municipale à Martigues. Martigues, 47 000 habitants, une médiathèque vraiment architecturellement très très intéressante. Elle est entre ciel et mer, on peut y aller en bateau. On a 22 000 adhérents et c'est le premier poste budgétaire de la culture. Voilà. Donc nous, on travaille plutôt que on a des publics variés, mais on travaille plutôt à la médiathèque sur les usages. Voilà, c'est ça qui est pour nous qui est intéressant. Et je prenais la parole pas pour parler de Martigues, mais pour répondre à quel est l'argument pour convaincre les élus de l'importance de la médiathèque. Et ben c'est de partir des usages et de l'utilisation qu'en ont les citoyens. Nous à Martigues, je peux dire que la médiathèque, il y a une politique culturelle à Martigues qui est extrêmement intéressante. Mais la médiathèque, elle est au cœur de toute la vie culturelle. C'est vraiment, enfin c'est peut-être un petit peu bateau pour vous maintenant de parler de troisième lieu. Mais c'est vraiment l'endroit, la médiathèque, où le citoyen qui a un problème quelconque, quelque chose à chercher, une réunion à organiser, etc., et ben spontanément, c'est l'endroit de la ville où il va aller pour... voilà, parce qu'il a une place pour énormément d'usages à la médiathèque, en sachant que le rôle de l'élu aussi, parce que c'est vrai que les équipes de la médiathèque ont tendance à répondre au coup par coup à toutes les attentes, à toutes les demandes, et que l'élu, il est là aussi pour garder le sens de l'action culturelle, de façon à ce que voilà, on ne soit pas dans l'événementiel. Et je crois que l'important, c'est de donner du sens, mais que les équipes d'une médiathèque, pour convaincre de l'importance de la médiathèque, elles doivent partir des usages. Et les usages d'une médiathèque, ils sont multiples, ils sont croisés, et ils correspondent à autant d'usagers qui sont les publics. Voilà.
Merci d'avoir porté cette parole de Martigues. Je salue Catherine Perrin qui anime avec talent cette biothèque. Alors, pour préciser les choses, nous avions une invitée femme à cette session. Mais voilà, on n'a pas tenu et puis on l'a éliminée. Hein. Non, elle n'a pas pu être des nôtres. Monsieur le Président, on passe à la biothèque idéale et finalement...
Je vais répondre à madame sur ce thème-là et puis j'enchaînerai un peu sur quelques éléments en effet de la bibliothèque idéale. Comment est-ce qu'on convainc des élus de s'investir et d'investir un peu d'argent aussi public dans les médiathèques? Ben, j'aurais envie de vous dire que on peut leur dire vous avez... Aujourd'hui, ce qui vous est un problème, on va en faire une solution. Je m'explique. Quand j'ai été élu maire, en 1995, maire d'une ville populaire, comme ça a été rappelé, avec une jeunesse nombreuse et turbulente, comme vous pouvez l'imaginer, j'avais la personne que je connaissais le mieux au bout de quelques semaines dans ma commune, c'était la directrice de la médiathèque qui venait me demander des effectifs de police municipale pour faire régner l'ordre dans la médiathèque. Je lui ai dit qu'on n'allait vraisemblablement pas s'y prendre de cette façon-là, parce que, évidemment, ce n'était pas les missions ni de la bibliothèque, médiathèque, ni de la police municipale, mais qu'il fallait peut-être réfléchir à un fonctionnement qui permette de retrouver de la sérénité et un apaisement de fonctionnement. Et en fait, il y a eu deux étapes. D'abord, des pratiques envisagées différemment, et puis pour tout dire, un management différent donc des personnels de la médiathèque. Et puis ensuite, nous avons pu développer un projet aussi dans le cadre de l'ANRU, parce que dans notre centre culturel, nous avions les trois fonctions de médiathèque, d'école de musique et de maison des jeunes et de la culture, avec des publics évidemment différents, avec des croisements physiques sur le lieu qui étaient compliqués. Donc aujourd'hui, au bout de bien des années, après des investissements très importants, avec le soutien bien sûr de partenaires financiers tout à fait indispensables comme l'État, et la région et le département, nous avons pu avoir une école de musique face à notre mairie et juste à côté, donc la médiathèque, agrandie, renouvelée, complètement restructurée, ainsi qu'une maison des jeunes et de la culture, elle-même indépendante, agrandie, renouvelée. Donc ça, il faut reconnaître qu'à cet égard, les investissements permis par la politique de la ville ont été essentiels, ce qui fait que maintenant, nous avons d'abord une belle médiathèque, ouverte, en proximité des autres équipements culturels, mais avec son propre fonctionnement, des équipes tournées vers le public et aussi des pratiques qui ont compris que ces publics ont des comportements, des besoins différents et que, évidemment, la médiathèque d'une ville populaire, ça n'est pas une cathédrale où on entend les mouches voler et où tout le monde est recueilli, mais c'est un endroit qui est manifestement intergénérationnel. J'entendais parler de troisième lieu. En fait, c'est un espace public de premier niveau dans lequel tout le monde doit pouvoir se rencontrer en se respectant. Et on sait bien qu'un adolescent, c'est quand même un peu plus bruyant qu'un retraité. Ça changera peu, vraisemblablement, dans les décennies à venir. Et il faut prendre ça en compte. J'ai beaucoup tenu aussi à ce que ça soit un très beau lieu. D'abord, un lieu extrêmement visible. Il répond à la mairie. Il est au bord de notre artère principale, largement ouvert visuellement vers l'extérieur. Il est adapté à tous les publics, des enfants de 3 ans qui peuvent ramper dans les espaces qui leur sont dédiés, jusqu'à des espaces dédiés aux adolescents où ils peuvent se vautrer. On leur a acheté des mobiliers spéciaux pour qu'ils puissent se vautrer, là, comme ce qu'on voyait dans la publicité où c'est testé avec un phoque là, qui s'étale. Là, on a des vautroirs à adolescents qui sont particulièrement adaptés. Et puis, on a des espaces plus classiques, bien évidemment, pour le public adulte, et tout le monde se croise. Depuis que nous avons un beau lieu bien adapté, évidemment, c'est un lieu public apaisé. Et c'est ça, pour moi, la bibliothèque idéale. Chacun en donnera bien évidemment sa définition. Et pour moi, c'est un espace public dans lequel viennent toutes les générations et de façon apaisée. On parlera après, j'ai décidément la manie d'anticiper sur la question suivante de fabrique du citoyen, mais déjà amener toutes les générations à se croiser dans un même endroit, à se respecter à travers des prêts d'ouvrage et à travers un lieu qu'on fréquente ensemble, je crois que c'est très banal, mais ça n'est sûrement pas rien, bien évidemment. Et dans cet espace apaisé, encore une fois, évidemment, il y a des moments plus difficiles. Évidemment, il peut même y avoir des moments de tension. Force est de reconnaître que nous en avons beaucoup moins. Et c'est un lieu aussi qui, par la qualité à la fois de l'environnement et de l'accompagnement qui est proposé, permet à des gens d'origine sociale très variée et évidemment, bien sûr, dans cette commune très, très modeste, d'avoir une estime de soi aussi un peu différente, parce que c'est un beau lieu où je suis chez moi comme n'importe qui. Et ça, à mes yeux, c'est extrêmement important aussi. Nous avons, je l'ai dit, ouvert aussi une maison des musiques avec un auditorium bien sûr plus modeste que celui-ci. Il y a 200 places pour une commune de 10 000 habitants, c'est important. Et nous veillons à ce que tous les publics, les familles, quand les enfants font une prestation, par exemple, y compris les enfants des écoles, pas seulement ceux qui sont spécifiquement accueillis dans la Maison des Musiques et également, que les familles viennent et sachent que cet espace est également pour elles. Et c'est aussi un facteur, évidemment, qui a une place particulière, mais d'apaisement social, ça ne fait pas tout, mais encore une fois, en montrant qu'on est traité à l'égal de tout autre citoyen et qu'on a de belles choses, évidemment, on est incité à les respecter. Ça me paraît une évidence, mais une évidence qui fonctionne.
Merci pour cette réponse à la question qui était posée. C'est vrai qu'on avait pensé dans un deuxième temps parler de la bibliothèque idéale en anticipant cette question. Nous portons, nous, bibliothécaires, des idéaux, des modèles de bibliothèque, mais s'ils ne rencontrent pas un écho chez nos élus, ça va être difficile. D'où cette idée de demander, cette fois-ci à Jean-Luc Maillot, quel est, Monsieur le Président, votre idéal de bibliothèque au sein de l'Université de Lyon 2? Comment vous imaginez, vous vous dites, tiens, la bibliothèque, si elle était comme ça, ce serait... Voilà.
Merci. Oui, alors, en vieux mal de plus de 50 ans, je ne vais pas fonctionner sur mes souvenirs, mais sur l'actualité. L'actualité, c'est une réflexion sur ce que sont nos étudiantes et étudiants. Et l'idéal de la bibliothèque, quand je suis, moi, responsable politique, mais responsable de la gestion, j'ai reçu mes responsables de bibliothèque il y a quelques jours. La première chose, j'ai envie de dire, il faut que ça soit une bibliothèque ouverte. Alors quand je dis ouverte sur la cité d'accueil, mais d'abord physiquement ouverte. C'est-à-dire quand les problèmes budgétaires, quand les réclamations des syndicats légitimes font qu'on est en train de discuter sur les heures d'ouverture. Voilà. Est-ce que je reste ouvert le samedi matin à Porte des Alpes, Bron? Est-ce que je reste ouvert sur les quais samedi après-midi? Est-ce que je reste ouvert au-delà de 18h, de 19h, de 20h? Ça, ça a des coûts. Et pour l'instant, je n'ai pas le moyen de... Je ne peux que répartir, réfléchir, fermer là pour ouvrir là, etc. Donc, premier point de l'idéal, c'est celui-là. Ce sont aussi pour moi des lieux qui doivent être adaptés avec les questions de fond. Bibliothèque organisée par discipline, par spécialité, qui donc vont contenir éventuellement des lecteurs par discipline et par spécialité. Donc toute la recherche, aujourd'hui, par-delà les fondamentaux qu'est censée apporter l'université dans la formation, on est aussi dans la volonté de l'interdisciplinaire, du croisement, de la réflexion, du travail sur les marges, expérimentales ou autres. Et donc, comment arriver à ces bibliothèques? Si je prends Lyon 2, mais si je prends le système, le dispositif lyonnais dans son ensemble, y compris en incluant les bibliothèques publiques municipales, par exemple, eh bien, on a des bibliothèques disciplinaires. Je sais que telle revue, je vais la trouver sur tel campus, à tel endroit, telle revue ou tel ouvrage. Donc, ça pose là aussi des problèmes. Autre problème encore, c'est quoi une bibliothèque ? Bibliothèque, c'est, vous le savez tous, c'est votre métier plus que le mien, mais on va dire qu'à l'université, les choses sont réellement criantes. Bibliothèque pour trouver des livres, pouvoir les lire, lieu de travail, bibliothèque studieuse. Mais c'est quoi être studieux en 2013 ? Être studieux à l'université, oui, c'est de pouvoir être tranquille dans un coin pour pouvoir lire. J'en suis bien d'accord. Mais être studieux, c'est aussi travailler en collectif. C'est aussi échanger. Et donc, la bibliothèque, c'est le travail autour de l'écrit, que ce soit en support papier ou autre. C'est du partage, c'est du débat. Et je pense que, là encore, on doit concevoir des locaux, grandes salles de lecture, assurément, mais... petite entité nécessaire à la confrontation, au débat. C'est-à-dire pourquoi faudrait-il séparer l'acte de lire de l'acte de critiquer, d'étudier, de commenter, etc. Donc je crois que ça vaut le coup d'y réfléchir de façon assez importante, me semble-t-il. Donc lieu de travail. Mais la bibliothèque, pour aller vite, c'est aussi, vous le savez bien, un lieu de vie. Sur un campus, dans cette tranche de vie qu'est la vie étudiante. Le problème que je me pose aujourd'hui dans une ville comme Lyon, est-ce que nos campus sont des lieux de vie? Est-ce que ce sont des lieux où les étudiants, ont envie de rester? Est-ce qu'on ne fait que passer pour aller picorer des cours, voire les suivre assidûment, hein? C'est pas le problème. Mais est-ce qu'on peut faire autre chose? Je veux dire, moi, toute la rénovation que je veux faire de Porte des Alpes, en installant justement des logements étudiants, c'est-à-dire en transformant radicalement ce campus, en le laissant ouvert la nuit, y compris la bibliothèque, qui est vraiment les dossiers que je suis en train de monter, c'est derrière cette idée. Alors pourquoi? Parce que, et ce n'est pas lié particulièrement au type de population étudiante que je signalais d'entrée de jeu, je crois véritablement que c'est un lieu de sociabilité, c'est un lieu d'entraide, c'est un lieu symbolique. Être étudiant, c'est encore se balader avec un bouquin, c'est encore réclamer ce lieu où l'on se rencontre. On ne se rencontre pas dans une salle de cours, on se rencontre difficilement dans un amphi, on se rencontre difficilement dans des restaurants qui ne sont pas forcément universitaires, pas forcément très agréables, où on n'a pas envie de traîner. Mais ça, c'est... Enfin, ça existait déjà 50 moins 30, donc il y a 30 ans, pardon. Mais simplement, ce lieu-là, lieu comme symbolique de l'appartenance, lieu du mélange, lieu de l'entraide. Pourquoi Moi, ce que je remarque aussi, c'est la diversité possible. C'est-à-dire, les étudiants, ce n'est pas simplement une catégorie d'âge. Je souhaite, je suis désolé de le dire, j'ai connu, quand je faisais mes études, il y avait la bibliothèque des profs, la salle des profs et la salle des étudiants, que l'on arrête. Et pourquoi les profs ne travailleraient-ils pas dans un environnement, y compris physique, avec les étudiants? C'est tout cela. Je crois qu'il faut réfléchir. Et puis enfin, la question des supports. Alors, question des supports, oui, le livre. Je sais bien, les bibliothèques universitaires, les bibliothèques sur les campus, en liaison, encore une fois, à Lyon, en tout cas, moi, en lettres, sciences humaines et sociales, je ne peux pas faire autrement, en plus avec plaisir, mais je ne peux pas faire autrement qu'avec les ressources municipales, mais qui est bibliothèque de conservation, hein, c'est important. Et simplement, comment mêler dans notre réflexion, d'une part, le type d'usage de la bibliothèque, le nombre de bibliothèques où viennent des gens pour être là, pour faire autre chose que consommer du livre, les disciplines ou les méthodes qui requièrent plus de l'article que de l'ouvrage. L'article aujourd'hui, il est quand même à peu près en ligne, même si ça coûte très cher, puisque les marchands du temple se sont emparés de tout cela. Mais je voudrais dire aussi que l'approche même dépend, les demandes en recherche renvoient soit à des bibliothèques exceptionnelles extrêmement rares, parce qu'on a besoin de tel ouvrage, telle date, éventuellement l'exemplaire original ou autre. C'est en décalage, me semble-t-il, avec d'autres besoins, lambda, de l'étudiant de licence, mais pour lequel, pourtant, la rareté doit être accessible. Et pour terminer, de dire qu'il y a beaucoup de disciplines, et c'est pas, je mets hors de cause la médecine et la mathématique, mais pour lesquelles le livre n'a aucune importance, le passé n'a pas d'importance, en gros. On ne va pas chercher, ce qui importe c'est l'actualité. Et, donc comment on est capable, nous, de nous adapter, hein, quand on a une vision, alors pas simplement cette fois-ci mon université, mais un ensemble, un dispositif sur l'ensemble des disciplines, l'ensemble des universités et établissements de l'enseignement supérieur du site. Voilà, je vous remercie.
Merci. Georges Capenekian.
Oui, je pense que je ne vais pas avoir une position radicalement différente de ce qui a été dit. J'adhère essentiellement à tout ce qui a été dit. Et alors, vu de la ville et de l'idée qu'on se fait d'une bibliothèque idéale, il me semble quand même qu'un élément nouveau est la numérisation. Vous savez, je l'évoquais ce matin, que nous avons, à travers un partenariat public-privé, permis de démultiplier notre numérisation, en tout cas du fonds ancien, mais aussi d'un travail parallèle sur des documents de la bibliothèque. Numérisation qui ne se pose pas tout à fait dans les mêmes termes à l'université, puisque beaucoup de documents sont d'emblée numériques. Aujourd'hui, un journal scientifique, à peu près au même prix d'abonnement, va vous offrir la mise en ligne des documents. Mais Je crois que cela amène à modifier aussi des comportements. On voit bien, je crois que ça doit être assez universel. Grosso modo, jusqu'à 14, 15, 16 ans, on va à la bibliothèque. Et puis on y revient plus tard, plus proche de la retraite. Et au milieu, il y a un trou d'air, il y a le triangle des Bermudes où les gens ne sont pas forcément très là. À la fois parce qu'ils ont des moyens d'accéder aux livres, aux savoirs d'une autre manière, mais aussi peut-être parce que l'idée qu'on se fait de la bibliothèque à ce moment-là, entre travail et lieu de loisir, est un peu brouillée. Je crois que vous parliez tout à l'heure, madame, d'adapter aux usages. Je crois qu'on a de plus en plus besoin de réfléchir avec les publics, à ce qu'ils, les publics de, des trentenaires, des quarantenaires, ce qu'ils peuvent attendre de la bibliothèque. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont revenir ou rester à la bibliothèque pour y trouver de nouveaux espaces, des espaces de partage? Et je crois que aussi bien qu'à l'université, la bibliothèque peut redevenir un espace de rencontre, de partage, d'une vision plus collective. Je peux acquérir de la connaissance tout seul chez moi, mais j'ai besoin de la confronter, de l'échanger, de la partager, de la brasser. On voit bien comment les Assises internationales du roman qui viennent de se terminer mobilisent un public important, et les gens viennent parce qu'ils écoutent le débat et qu'ils s'inscrivent dans le débat. La quinzaine que nous avons organisée à Lyon et dans la région d'ailleurs autour de Mode d'emploi, qui est un grand rendez-vous autour des sciences sociales, mobilise des gens. On a aussi besoin, et c'est plutôt cette catégorie des 30, quarantenaires, cinquantenaires, pour les sans vouloir catégoriser personne, c'est là qu'on voit qu'on a aussi besoin d'échanger. J'ai pu acquérir de la connaissance, mais j'ai besoin de la confronter, sans vouloir tout de suite imaginer une vision d'une démocratie participative, mais peut-être apporter ma contribution en même temps que je participe à ce débat. Je suis, moi, convaincu que ce sont peut-être aussi dans les bibliothèques, même si d'autres lieux réfléchissent à ce dispositif, de plus en plus de théâtres font aussi dans leur programme, intègrent des soirées autour d'une pièce, autour d'un texte, autour d'un thème, des soirées de réflexion. Je crois que plus que jamais, peut-être parce qu'on a les moyens d'acquérir de la connaissance de manière très autonome, on a besoin de se retrouver à d'autres moments dans ce collectif et dans cette... Plus je me constitue mon jeu, plus j'ai besoin de participer pour faire du nous. Et ça me paraît être un projet que les politiques doivent avoir en tête plus que jamais. Je dirais aussi qu'aujourd'hui, les bibliothèques, vous faisiez état d'une forme de catégorisation, mais si je regarde aussi les bibliothécaires, peut-être que la profession n'est pas non plus le reflet de toute la diversité de notre pays aujourd'hui. C'est aussi quand dans la bibliothèque IDEAM, j'ai été très frappé à Montréal de voir qu'à dans la bibliothèque centrale, vous avez des ordinateurs en 7 langues différentes. Non pas parce qu'on voudrait avoir une politique communautariste, mais parce qu'on pense qu'en même temps que j'acquiers la langue, la connaissance canadienne, eh bien j'ai besoin de ne pas perdre complètement le fil avec ce qui a pu me constituer avant d'être là. Donc c'est des questions qu'on doit vraiment se poser. Donc les bibliothèques, je pense, encore une fois, espace ouvert, espace de partage, espace du collectif, pas seulement de travail, même si à l'université on doit d'abord travailler, mais il y a plusieurs manières de travailler, j'en suis intimement convaincu. C'est aussi ces lieux où on doit de réel brassage. L'accès à la connaissance sous toutes ses formes, ce n'est pas parce que je n'ai pas lu tous les classiques français que pour autant je suis acculturé. C'est ces schémas peut-être qu'on doit faire évoluer aujourd'hui, et il me semble que ces lieux privilégiés que sont les bibliothèques peuvent être un des leviers pour faire participer, inclure. On parle plus aujourd'hui de politique inclusive que intégratrice, ce qui est bien sûr pas tout à fait pareil. C'est de penser que l'autre, je vais essayer de le prendre avec ce qu'il est et sa différence. Et cela doit amener peut-être à un mode de participation et d'inventer de nouveaux usages avec les publics.
Merci. Question dans la salle sur l'idéal de bibliothèque des élus. Oui, monsieur, là, au deuxième rang. Tout devant, là. Si vous pouvez vous présenter.
Oui, je suis qui? Oui, bonjour, je suis Guillaume Delataille et je travaille à la ville de Paris. Mais ce dont j'ai parlé, c'est pas de mon expérience parisienne. Là, nous sommes en face d'élus qui y croient, hein, et qui sont et ce n'est pas du tout négatif dans mon esprit, un peu édifiant parce qu'ils y croient. Et donc, ils ont un modèle, ils ont un idéal de bibliothèque. Je voudrais juste, sans que ce soit pris pour trop négatif, dire que j'ai rencontré très souvent maintenant des élus locaux qui n'y croient plus, qui ne croient plus au modèle de la bibliothèque. Ils ne vous le disent pas tout à fait, parce qu'ils n'osent pas le dire, parce que c'est la culture, parce que c'est la bibliothèque, parce qu'il y aura 20 mots qui vont s'enchaîner les uns les autres pour célébrer le lieu troisième ou autre. Mais au fond, quand on les écoute et qu'on voit qu'ils sont accaparés par des problèmes de logement, de réhabilitation, de quartier, par tous ces problèmes-là qui les tiennent à cœur, et c'est pour ça que mon propos n'est pas du tout un propos critique à leur égard, eh bien, on sent bien que la bibliothèque, ça passe en second, en troisième, ou voire, s'ils pouvaient le dire, on mettrait le dossier de côté. Et je ne peux pas dire que c'est l'ensemble de ce qui se fait, hein, ce que je dis. C'est des signes de fracture, de craquellement dans la belle unité qui s'était forgée il y a 30 ans sur les bibliothèques, où il y avait l'alliance de, disons, accompagner une génération qui se scolarisait. Il y avait le thème de la culture. Il y avait quelquefois la bibliothèque qui était l'établissement phare, qui célébrait le maire et sa mairie. Et tout ça, je sens quelquefois, et je ne citerai pas d'exemple parce que je ne veux mettre en cause personne, je pense que ça se craquait légèrement et qu'il faut le prendre en compte.
Écoutez, merci pour cette question-intervention. C'est vrai que dans le cours de ce débat, je sentais comme vous hein, ce problème qui est, outre qu'on est trois hommes de plus de 55 ans, qu'on est trois hommes de plus de 55 ans élus qui croient à la bibliothèque. Alors c'est vrai qu'on pourra la prochaine fois donc n'inviter que des femmes qui n'y croient pas, mais je ne pense pas que ce soit la solution. On peut porter la question parce que ce que vous dites, je l'ai vécu. Hein, je l'ai vécu quand j'étais à Marseille, porter auprès des élus marseillais le projet de construction d'une nouvelle bibliothèque. Je me heurtais à des réponses qui étaient « Mais monsieur Eboli, nous comprenons bien que vous avez une ambition pour les bibliothèques de la ville, mais regardez dans quel état est notre ville, ou regardez quels sont les défis financiers, budgétaires, regardez ce que nous impose telle norme européenne pour les SDF, etc. etc. » Comment, dans ce cadre-là, défendre l'institution ? Comment dire que soigner la base du mal, c'est quand même plus efficace que soigner le symptôme. Bon, ça, c'est des argumentaires que nous savons développer. Mais là, nous posons la question aux élus. Monsieur le Président, quand vous êtes face à des tensions budgétaires, j'imagine que le budget 2014, par exemple, en connaîtra certaines. Comment défendre la bibliothèque quand, eh bien voilà, vous avez le retrait de telle recette, l'augmentation obligatoire de telle dépense, que le collègue en charge des affaires sociales vous dit « Bon, ben, telle charge est à prévoir », comment défendre la bibliothèque ?
D'abord, moi, j'entends bien ce qui a été dit. En tant que responsable d'un territoire départemental, je n'ai pas le sentiment que nos bibliothèques soient menacées ou en perte de vitesse. Alors, je parle pour le territoire que je connais, bien évidemment. Je ne me permets pas d'avoir un avis sur les autres territoires. Je crois que nous développons d'ailleurs des actions qui sont en pleine dynamique avec ces échanges de documents dont je parlais tout à l'heure en parlant de Révodoc. Donc, nous, on a plutôt le sentiment dans le Val d'Oise que les dispositions que nous avons prises en matière de lecture publique sont bien relayées, elles accompagnent des initiatives des communes. Dans le Val d'Oise, il y a beaucoup de communes qui sont en politique de la ville. Hein, on a, je n'ai plus le chiffre en tête, mais un très grand nombre de communes qui en relèvent, une grande partie de nos habitants. Et nous avons pu voir, dans une enquête qu'on a réalisée assez récemment, que ces lieux apparaissent justement comme un endroit de rencontre, comme un endroit d'apaisement dont je parlais tout à l'heure, et à cet égard sont reconnus comme tels par les élus, y compris des villes les plus difficiles. On sait que le Val d'Oise est dans l'actualité aujourd'hui même, puisque s'ouvre à Pontoise le procès qui a fait suite aux événements de Villiers-le-Bel en 2005, si ma mémoire est bonne. Donc, ces éléments de tension, ils sont au cœur de nos préoccupations et ils inspirent évidemment tous nos objectifs en matière de développement social, de politique de la ville. Et évidemment, ces objectifs sont portés par les élus municipaux et nous essayons de les accompagner. Et je n'ai vraiment pas ce sentiment que la médiathèque, la bibliothèque soit dévalorisée. Bien au contraire, évidemment, les tensions budgétaires, nous ne les ignorons pas, nous les connaissons nous-mêmes. Mais par rapport aux tensions que nous allons avoir, que nous avons déjà et que nous aurons, notamment dans les départements, pour faire face à la dépense obligatoire liée aux allocations de solidarité nationale, on n'est pas du tout dans l'échelle. De toute façon, les arbitrages qu'on pourrait faire sont très marginaux en la matière et ne nous permettent pas d'affronter ce problème. Déjà, ça, c'est une première réponse. Et puis ensuite, vous l'avez évoqué en évoquant le prestige que peut procurer aux élus un bel établissement, en disant que peut-être aujourd'hui, face aux tensions budgétaires, c'est quelque chose d'un peu dépassé. Et je voulais ajouter d'ailleurs cette réponse à la question qui a été faite tout à l'heure, comment on motive les élus. Je crois, je continue à être persuadé malgré tout, et d'après ce que je vois au quotidien, que même dans une ville, et surtout dans une ville populaire, avoir un bel équipement qui attire au-delà de la commune, ça reste malgré tout une source de motivation pour les élus. Je l'ai vu à l'œuvre dans ma commune, avec en effet des élus qui, fort légitimement, étaient préoccupés de tourner leurs dépenses principalement vers leurs concitoyens. Et nous avons aussi d'ailleurs publié une étude il y a peu qui montrait bien que la clientèle, que la fréquentation d'une bibliothèque, elle se faisait directement en fonction de sa surface et de la qualité de l'offre de ce qu'elle faisait, et pas proportionnellement à la population. Ça, on le vérifie très régulièrement. Eh bien, avoir un bel équipement, un équipement qui rayonne, qui attire, un équipement culturel de première importance comme une médiathèque, ça reste quand même quelque chose de très apprécié par les élus. Et il me semble que dans notre département, les projets qui se sont récemment réalisés en ont été le témoin. Maintenant, bon, j'ai entendu aussi ce que vous dites, mais ce n'est pas mon expérience.
Par rapport à la question que vous soulevez, monsieur, vous ne mettez pas les pieds dans le plat, mais vous, en tout cas, vous mettez au jour évidemment ce qui nous travaille globalement, c'est-à-dire est-ce qu'on est encore adapté en gros à ce qui fait la formation, l'information. Je devance la question suivante, à ce qui fait citoyenneté ou ce qui est susceptible de le faire. Donc est-ce qu'on n'est pas, même moi universitaire, enfin pour ce que j'ai, mes fonctions, est-ce qu'on n'est pas en décalage? Et comme universitaire, oui, on est en décalage. On est en décalage par rapport à des pratiques qui ne sont pas d'abord celles que nous avons vécues, et que les enseignants n'ont pas vécues, forcément, et on est en décalage devant des approches multiples du livre et de la bibliothèque, enfin du livre, de l'écrit, je préfère, et du lieu bibliothèque. Donc, bien sûr qu'on est sur l'espace numérique, bien sûr qu'on est dans quasiment une forme d'économie, d'accès, de rapidité au texte, c'est une chose. À la limite, pouvoir travailler chez soi, excusez-moi, enfin, aujourd'hui, j'essaie de travailler de cette façon-là, j'ai plus le temps de me... même avant d'être président. Mais je constate quand même, en tout cas dans une université comme la mienne, c'est que le fait d'aller, d'être en bibliothèque, prend un sens. Pas forcément pour tout le monde. J'ai 17% d'étudiantes étrangères et d'étudiants étrangers à Lyon 2. On arrive à les identifier. Et ces étudiants, ce sont ceux qui viennent, bien sûr, de très loin, puisque notre établissement et la ville de Lyon, etc., etc., sont renommés. Mais on a aussi ces étrangers de première génération, hein, pas de deuxième, donc ceux qui ne sont pas nés nécessairement en France. Et on voit bien en quoi, et j'en fais une question sociale, hein, l'accès au livre et au lieu du livre veut dire quelque chose. Donc, D'où parlons-nous, pour reprendre ce que disait Georges tout à l'heure, je ne sais plus si c'était public ou en aparté, mais comment nous allons intégrer ces questions-là? Qu'est-ce qui fait que, oui, cette transmission, cette culture qui passe par, par l'écrit, est-ce que, bien sûr, a priori, nous la portons. Mais nous sommes en concurrence, mis en concurrence. Mis en concurrence par d'autres formes, et sur lesquelles nous, enfin, j'ai quand même l'impression que nous sommes à la traîne. Donc, la bibliothèque comme lieu multiple, je le défends envers et contre tout, et pas simplement, comme on a pu le penser parfois, quand on passe de la bibliothèque à la médiathèque, c'est-à-dire comment on rend acceptable pour des élus qui n'en peuvent mais les questions de fréquentation, les questions de prestige, les questions, bien sûr, de populations différentes susceptibles d'être attirées. Donc, mais on n'est pas dans la médiathèque, enfin, je ne suis pas encore, moi, dans la médiathèque universitaire.
Donc, il y avait une intervention dans la salle avant que Georges ne... Oui, il ne reste plus que quelques minutes. Madame de Martigues, vous vouliez intervenir, je crois. Non, c'est permis.
Alors, je vais répondre de façon là, très, très pragmatique aux bibliothécaires, parce que je comprends tout à fait ce que vous pouvez ressentir. Moi-même, une fois, un élu m'a dit « Quand la culture aura son quotidien comme le sport, vous aurez le même traitement. » Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui existe, mais je pense que c'est peut-être pas pour les raisons, c'est pas pour une question de désintérêt. Enfin, moi, pour beaucoup discuter avec mes collègues élus, ce que je vois, c'est qu'il y a une double position par rapport à la médiathèque. La médiathèque a subi une évolution avec le numérique qui est vraiment, qui a été très très importante en peu de temps. Et souvent, les élus, en fait, ils sont un petit peu dépassés par ce qui se passe aujourd'hui dans les médiathèques. C'est pour ça qu'ils ont tendance à rester à distance, à regarder ça de loin. Nous, à Martigues, on a résolu le problème en les invitant très fréquemment, en organisant beaucoup de formation sur les... Enfin, on a organisé des formations, des choses comme ça, où on invite les élus en leur disant... Quelquefois, ça a été des trucs, mais c'était vraiment au ras des pâquerettes. J'ose même pas le dire, qu'on a invité des collègues élus pour faire leur page Facebook ou des choses comme ça. Hein. Mais voilà, il a fallu partir de là. Et bon, au fur et à mesure, les élus s'approprient ce... Voilà. Et... La deuxième chose aussi, c'est que souvent les élus ne s'occupent pas des bibliothèques ou des médiathèques, parce que très souvent, la médiathèque, c'est un lieu qui fonctionne. Il y a beaucoup d'adhérents, ça fonctionne. L'élu a vraiment une vision de la médiathèque comme d'un lieu un petit peu statique, avec le lecteur qui joue son rôle de lecteur. Et donc, je pense que c'est au personnel de médiathèque de réveiller le lecteur et de le transformer en citoyen. Et là, le citoyen, eh bien, ça devient beaucoup plus intéressant pour un élu, parce que derrière un citoyen, ben, y a un électeur. Donc nous, à la médiathèque de Martigues, il y a énormément de cahiers de suggestions partout. Donc il y a beaucoup de cahiers de suggestions. Les bibliothécaires sont constamment à l'écoute des utilisateurs de la médiathèque. Et on a mis également en place une réunion trimestrielle avec un comité de lecteurs, comme il devrait y avoir dans tous les services publics, des comités d'usagers. Et voilà, donc je ne dis pas que c'est parfait, mais on travaille sur la forme, qui est une forme évolutive. Quelquefois, on a des réunions où les gens viennent en groupe quand il y a des choses à mettre en route, etc. Ou alors, quelquefois, quand il s'agit d'évaluer justement toute la partie numérique, les gens ont été reçus un par un par les bibliothécaires. Donc ça prend beaucoup de formes, mais voilà, on est vraiment en situation de co-construction de la médiathèque avec le public, et voilà, ça fait un public vraiment éveillé, et là, les élus voilà, sont beaucoup plus intéressés par ce qui se passe.
Oui, alors il nous reste beaucoup de temps, 2 minutes en fait, donc c'est une conclusion qui s'impose. Je voyais d'autres thématiques, pas possible, d'accord, présidente. Oui.
Esther de Climer, médiathèque de Roubaix. Je rejoins ce qu'a dit notre collègue de Paris, et je voudrais simplement faire un focus sur la bibliothèque dans la politique culturelle d'une ville. La problématique de Roubaixienne, c'est qu'à Roubaix, il y a une bibliothèque discrète et un musée que tout le monde connaît. Quelle concurrence !
Alors, moi, je vais, puisque le temps passe, je ne vais pas répondre aux différentes interventions qui apportent bien entendu un éclairage. Je ne crois pas que les organisateurs de cette table ronde aient eu l'idée de faire la visite d'un appartement témoin, c'est celui qu'on vous vend pour que vous soyez sûr d'acheter l'autre qui sera évidemment moins beau que celui-là. Donc je ne crois pas que ça ait été ça l'idée. Et quand on est à Lyon, on ne vit pas qu'à Lyon, on a deux, trois idées sur ce qui se passe, pas seulement dans la ville, mais aussi autour. Et je crois que la dernière réflexion me paraît essentielle. Ce que nous avons, je crois, essayé de faire au cours de ces dernières années, c'est que la lecture publique ne soit pas un élément extérieur à la politique culturelle de la ville. Et parce que ce n'est pas seulement la bibliothèque qui peut être critiquée par les autres collègues, même au sein de l'équipe municipale, certains autres élus peuvent dire « mais ça va, quoi, tu as le premier budget après les écoles et la petite enfance, on va en prendre un peu parce que le logement social, c'est quand même plus important que tes trucs ». Avec l'idée que la culture, et comme on a de la danse en plus à Lyon, c'est la danseuse du maire, c'est un truc, le supplément d'âme dont on n'a peut-être pas vraiment besoin. C'est quelque part une critique que nous devons entendre, la nécessité de repenser l'ensemble de nos politiques culturelles au sein de nos collectivités avec une tension budgétaire qui est devant les portes, qui fait qu'on ne va pas pouvoir aller donc nous vers du développement. Essayons d'imaginer une autre manière d'utiliser le même argent. Déjà, ça dégagerait, j'en suis convaincu, des marges de manœuvre. Ensuite, c'est un débat national, je vais le dire moi-même, quelle a été la part du débat sur les politiques culturelles dans les dernières élections, si je prends depuis 2007 pour qu'on élargisse un peu le spectre, c'est proche de zéro. C'est-à-dire qu'on continue de penser que la culture est un truc annexe. Ce que nous essayons de faire, en tout cas, c'est de démontrer que la politique culturelle de la ville n'est pas un élément des autres politiques, mais qu'elle est au cœur de la pensée de la cité. Et je crois qu'il y a beaucoup d'autres lieux, d'autres pays européens qui sont en train de réfléchir de cette manière. Je reviens au dispositif des cités interculturelles du Conseil de l'Europe. C'est un vrai lieu de brassage.
Bien, donc nous allons conclure, puisque la présidente nous y engage. Est-ce que cette conclusion peut être en forme de réponse brève à la dernière question ? La bibliothèque fabrique du citoyen, ça a du sens ?
Ah ben, très brièvement, pour moi, la bibliothèque, c'est une institution qui permet aux citoyens de se fabriquer lui-même. Le cœur de métier des conseils généraux, c'est l'action sociale. En matière d'action sociale, ce qui guide tous nos schémas, c'est accompagner vers l'autonomie. Et je pense que dans le domaine culturel, les médiathèques et bibliothèques doivent accompagner le citoyen vers l'autonomie, l'aider à se construire, mais surtout pas, bien sûr, le faire à sa place parce que c'est une utopie totale.
Merci. Jean-Luc ?
Oui, très, très rapidement, pour moi, l'université, c'est la fabrique du citoyen. Nécessairement, l'accès de tous à l'université pose problème, vous le savez bien. Cela dit, c'est quand même, je reviens sur l'importance du livre au sens noble du terme, c'est-à-dire de ce rapport qui est à la fois un rapport personnel. Donc pourquoi faut-il s'affoler de voir des enfants ou des jeunes gens devant un écran alors qu'on ne s'affolait pas de voir plonger dans un bouquin? Enfin, je mesure la part de provocation dans ce que je dis, mais de la solitude face au livre à la solitude face à l'écran. Je sais bien que ce n'est pas la même chose, mais je tiens à réduire les fantasmes. Et surtout, politique culturelle et politique du livre, politique de bibliothèque, comme politique sociale. Je crois que c'est fondamental et c'est là-dessus que j'ai envie de conclure.
Juste un mot, on est quand même dans le congrès des bibliothécaires. Je crois qu'on est très sensible aux 22 millions d'ouvrages que Google a réussi à numériser. j'allais dire, and so what. On voit bien que plus on crée des bases de données énormes, plus on va avoir besoin de professionnels pour donner les logiciels d'utilisation de ces banques de données. Donc les bibliothécaires, de mon point de vue, ont un métier fantastique, plus enthousiasmant que jamais, mais évidemment un peu différent dans la pratique quotidienne, mais pas dans l'esprit de ce qui a pu être fait jusqu'à aujourd'hui. C'est ces sauts, c'est ces mutations que nous devons imaginer tous ensemble.
Bien, merci, merci encore, messieurs, d'avoir bien voulu vous prêter au jeu de la table ronde. Des questions-réponses, même si elles n'étaient pas si nombreuses, elles étaient pleines de sens, je crois. Et puis, elles appellent de toute évidence d'autres débats. Donc, rendez-vous à très bientôt. Merci à tous pour votre attention et bonne suite de congrès. Monsieur Kepenekian vous donne rendez-vous tout à l'heure à la mairie à 19h et je le reprécise dans les grands salons de l'hôtel de ville, hein, pas à Gerland, dans les grands salons de la mairie à 19h. À tout à l'heure donc.